Vous êtes sur RTL.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et Stéphane Geneste pour toute l'actualité de ce samedi. Bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une, des vols annulés, des frontières fermées, les bourses qui dévissent, le variant Omicron du Covid-19 inquiète le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé le qualifie même de préoccupant. Le gouvernement prête à parler de l'autonomie de la Guadeloupe depuis plusieurs jours. L'île est touchée par une violente crise sociale. L'exécutif tente donc d'apaiser la situation. L'archevêque de Paris présente sa démission au pape François. Il est accusé d'avoir entretenu une relation intime avec une femme. Et puis, journée compliquée hier pour Éric Zemmour. Le polémiste était à Marseille et sa visite de la cité phocéenne a été plus mouvementée que prévu.
Après, le variant Delta du Covid-19, c'est le variant Omicron qui affole le monde entier. L'agence de santé de l'Union européenne a affirmé ces dernières heures qu'il existait un risque élevé à très élevé qu'il se répande sur le continent. Depuis la détection de cette mutation du coronavirus en Afrique du Sud jeudi, l'inquiétude est de rigueur. Bonjour Aurélia Valarié.
Bonjour.
Alors Aurélia, que sait-on à l'heure actuelle de ce nouveau variant ?
Tout d'abord, ce variant est une mutation du variant Delta, ce qui signifie qu'il est probablement plus puissant, mieux adapté et surtout plus contagieux. Est-ce que ça signifie pour autant qu'il est plus dangereux ? Eh bien ça, il est encore trop tôt pour le dire. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il faudra attendre plusieurs semaines pour répondre à cette question. Du côté des laboratoires, les premières analyses sont en cours pour déterminer si les vaccins ARN sont efficaces ou non sur ce nouveau variant. Mais le laboratoire Pfizer se veut plutôt rassurant, sachant que les vaccins ARN ont une capacité d'adaptation très élevée. Et enfin, dernière précision sur ce variant Omicron, il est facilement détecté avec les tests PCR actuels.
Alors vous le disiez hein, Aurélia, on sait déjà qu'il est plus contagieux. Du coup, quelles sont les mesures de précaution qui ont été prises ?
Eh bien, c'est la fermeture des frontières à l'Afrique australe, là où le variant circule activement. Cette nuit, le Brésil était le dernier pays au monde à adopter cette stratégie. Beaucoup d'États ont également suspendu leur trafic aérien. Et hier soir, les 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour mettre en place un principe de précaution absolue et renouvelée face à ce nouveau variant qui est d'ores et déjà arrivé à nos portes, puisqu'hier la Belgique a recensé son premier cas positif.
Merci beaucoup Aurélia Valarié.
Alors faut-il en avoir peur de ce nouveau variant ? On va poser les questions qui s'imposent tout à l'heure à notre invité en direct à 8h45, le professeur Jean-Michel Pavlotsky, virologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, tout à l'heure 9h moins le quart avec nous. Toujours sur le front du Covid en France, le gouvernement fait un pas en avant vers les Antilles en repoussant l'obligation vaccinale des soignants au 31 décembre.
Il l'a annoncé cette nuit, c'est normalement la date du 15 septembre qui s'appliquait. L'exécutif met donc de l'eau dans son vin pour que la crise en Guadeloupe et en Martinique cesse. Levée des suspensions pour les personnels soignants qui accepteront un accompagnement individuel. Report de la date butoir de la vaccination obligatoire donc. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, va même plus loin.
Je n'aurai aucun tabou. Certains élus ont posé la question, en creux, de l'autonomie par rapport à son statut actuel de département ou région d'outre-mer. D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Ils souhaitent moins d'égalité avec l'Hexagone, plus de liberté de décision par les décideurs locaux. Le gouvernement est prêt à en parler.
Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu qui annonce également la création de 1000 emplois aidés pour les jeunes de l'île.
Alors justement, en Guadeloupe, si la mobilisation est née de cette opposition aux mesures sanitaires, elle s'est généralisée en crise sociale avec de nombreuses revendications.
Dont celle d'avoir accès à l'eau courante, tout simplement. Sur l'île, les coupures sont habituelles. Mourad Djabari, vous êtes l'envoyé spécial de RTL justement en Guadeloupe. Et pour faire face à ce problème, certains Guadeloupéens trouvent des solutions tant bien que mal pour avoir de l'eau.
Oui, après des années de galère, de souffrance aussi, il y a quelques semaines, Warren a décidé d'installer au fond de son jardin une grosse citerne d'eau.
Alors j'ai investi dans une citerne de 1200 litres qui m'a coûté à peu près dans les 600 à 700 euros. Avec les deux filtres, on peut dire que je suis à peu près à 2100, 2500 euros.
Le prix pour avoir de l'eau en permanence dans les robinets de sa maison. Et pourtant, Warren habite en ville, pas très loin de la côte et des hôtels de vacances.
L'eau n'arrive pas dans les maisons, on peut rester à peu près 3-4 jours sans eau. J'aurais même préféré rester sans lumière, payer pour des coupures de 4 jours par semaine, mais ça vaut pas le coup. Hein. Et même lorsque j'avais pas encore la citerne, mais je mettais toujours des bidons d'eau ici, des bouteilles d'eau, que lorsque j'avais besoin de me laver, me brosser les dents, même même faire à manger, donc je prenais avec, quoi.
Mais aujourd'hui, avec cette citerne, l'informaticien d'une cinquantaine d'années vit avec sa famille une vie presque normale, un luxe malheureusement que tous les Guadeloupéens ne peuvent pas se payer.
Ah non, parce qu'ils n'auraient pas gueulé comme ça. Moi, je pense au 21e siècle, je pense qu'on n'aurait pas dû avoir ce genre de problème d'eau. Surtout que lorsqu'on dit que la Guadeloupe, c'est une île aux belles eaux, et c'est une parole vaine.
L'île, pourtant, ne manque pas d'eau, mais les fuites sont partout, le réseau est trop vétuste, et quand l'eau s'échappe, par chance, du robinet, parfois elle n'est même pas potable.
Reportage de notre envoyé spécial en Guadeloupe, Morad Djabari. En bref, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire après la diffusion d'un reportage de France 2 dans lequel plusieurs femmes accusent Nicolas Hulot de viol et d'agression sexuelle. Les investigations viseront à déterminer si les faits dénoncés peuvent caractériser une infraction pénale et s'il y a prescription. L'ancien animateur de télévision nie en bloc ces accusations.
Un coup de tonnerre dans le clergé français. Stéphane, l'archevêque de Paris a présenté sa démission au pape François.
Cela fait suite à la parution d'un article du journal Le Point qui met en cause sa gestion du diocèse et qui révèle une relation intime qu'il a eue avec une femme. Et Marie Guerrier, c'est donc au souverain pontife de donner suite ou pas à cette lettre de Monseigneur au Petit.
Et on ne sait pas du tout quand le pape François rendra sa décision, ça peut prendre plusieurs semaines. En attendant, l'archevêque de Paris continue d'assumer ses responsabilités. Michel Aupetit célébrera des confirmations d'adultes cet après-midi à Saint-Sulpice. Il reçoit beaucoup de messages de soutien, dit son entourage. L'archevêque reconnaît un comportement ambigu avec une femme il y a 10 ans, mais assure que ce n'était pas une relation sexuelle. S'il a écrit au pape cette semaine, c'est pour préserver son diocèse, dit-il. Il ne veut pas être une source de division, de troubles. Après la parution d'articles de presse qui mettent également en cause sa gestion des affaires diocésaines. Pour sortir de cette situation, Michel Aupetit s'en remet donc au pape François. Il remet sa charge d'archevêque entre les mains de celui qui lui a confié la mission. Et c'est maintenant au pape de juger et de trancher. Soit Michel Aupetit est conforté à son poste, soit il le quitte 4 ans après sa nomination.
Les explications de Marie Guerrier pour RTL.
La politique et Éric Zemmour en déplacement hier à Marseille. Une visite plus mouvementée que prévue pour le toujours pas candidat à la présidentielle.
Accueil de militants antifascistes à son arrivée d'abord, une brève déambulation dans le quartier du Panier. Ensuite, une visite qui a tourné court, un passage éclair de 16 minutes, Marie Mollet.
Oui, un petit tour dans les ruelles du Panier et puis s'en va, pas d'échange ni de poignée de main. Éric Zemmour reste muet face à un habitant qui l'interpelle.
Monsieur, vous savez comment je m'appelle ? Je m'appelle Mohamed, d'accord ? Je suis né à Marseille, je m'appelle Mohamed. Alors des gens comme moi, vous ne les considérez pas comme des Français ?
Il ne répond pas à ce monsieur, dit-il, fémine d'ignorer les sifflets des militants antifascistes qui le suivent à la trace.
Vous choisissez le moment où le quartier est vide pour faire un tour. Fallait descendre à la gare de Marseille.
Éric Zemmour presse le pas et joue les indifférents.
Ah oui, ni chaud ni froid, oui. Bah, il fait plus froid que chaud.
Avant de décamper au bout de 16 minutes de déambulation, l'élu qui l'accompagne, Jeanne Marty, ex-RN, tente de justifier.
Il a pris un peu le coup là, non ? On a déambulé et ben écoutez, voilà. Alors il n'a pas rencontré d'habitants.
Il y a quelques jours encore, son entourage le disait, Éric Zemmour n'aime pas les marchés. Dire bonjour madame, ça n'est pas lui. Eh bien, Éric Zemmour l'a prouvé hier à Marseille.
Marie Mollet, envoyée spéciale de RTL à Marseille.
Le football est la 15e journée de Ligue 1 qui se joue ce week-end.
Hier soir, Lens et Angers se sont neutralisés 2 buts partout. Au programme aujourd'hui, Lille-Nantes à 17h et à 21h, ce sera Nice-Metz à suivre évidemment en intégralité sur RTL.
Merci Stéphane. L'appli RTL à disposition pour avoir toute l'actu quand vous le souhaitez de ce samedi 27.